I don't understand. What do you mean?
Interesting question, actually. Yes, and then at the same time, a huge, resounding no.
Un sergent d'hiver, l'interview.
Qu'est-ce que vous lui avez répondu?
J'en savais rien.
Dans le cadre du Printemps de Bourges, je suis avec mon coéquipier Gabin. Bonjour Gabin.
Salut Stéphane.
Et là, nous accueillons Mathilde et Paul, d'Ascendant Vierge.
Salut.
Bonsoir.
Avant d'écouter votre titre « Faire et refaire », je me demandais quel était votre rapport aux médias radio en dehors de la séquence horoscope qu'on entend souvent dans les matinales.
Aux médias radio en général, en tant qu'auditeur?
Ouais.
Moi je suis très information le matin. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai entendu 4-5 fois la même chose, et là j'éteins.
Et pour toi Mathilde?
Alors moi j'ai vraiment été élevée avec la radio qui tournait en boucle, France Inter notamment. Voilà, du coup j'ai un peu un rejet aujourd'hui de la radio. Par contre j'écoute beaucoup de podcasts qui sont en vérité des émissions, mais que donc je n'écoute pas en direct. Moi j'aime beaucoup... J'aime bien des émissions de critique de cinéma, comme Le Masque et la Plume, des trucs de vieil intello chiant.
Eh ben nous, on fait des émissions radio qui, après, sont en podcast, donc quelque part, la boucle est bouclée. On va donc s'écouter Faire et refaire par Ascendant Vierge, et on se retrouve avec eux en interview tout de suite après.
Oh,
Nous venons d'écouter « Faire et refaire » d'Ascendant Vierge, duo que nous avons la chance de pouvoir interviewer dans le cadre du Printemps de Bourges. Pour mener cette interview, eh bien, je suis accompagné de Gabin, de la radio Studio Zef à Blois. Notre particularité, c'est d'avoir 20 ans d'écart. Moi, je suis né au début des années 80, lui au début des années 2000.
Pareil.
Pareil pour vous deux, c'est ça ?
Ouais.
À titre personnel, vos productions me donnent l'impression de replonger en plein milieu de mon adolescence, puisque à travers vos sons, j'y entends un peu du label Bonsai Records, j'y entends de l'Eurodance, j'y entends également les compilations Thunderdome. Et puis surtout, au cinéma, j'étais allé voir Le Cinquième Élément de Luc Besson, et par rapport à la voix de Mathilde, j'ai l'impression de retrouver la diva Plavalunga.
Ah.
Cette diva de couleur bleue et qui chante sur la musique d'Eric Serra. Est-ce qu'avec le recul, on peut dire que ce personnage de Luc Besson, c'est un petit peu une version vintage d'Ascendant Vierge ?
Complètement. Et je tiens à marquer un instant de pause, parce que c'est la première fois qu'on pose cette question aussi bien avec les bonnes références dans le bon ordre. Et non, c'est grosse ref, le Cinquième Élément, pour Mathilde et moi, mais on s'en est parlé
très vite,
mais ouais.
Non, oui, c'est vraiment une référence dont on parle hyper souvent. On a fait un podcast aussi pendant un temps qui s'appelait L'Horoscope sur Lille Radio, qui est une radio en ligne, et notre bande-son, c'était un extrait de la BO du Cinquième Élément. Donc c'est quelque chose qui est complètement entre nous tout le temps. Quand on crée nos vidéos, nos lives, c'est rare qu'on fasse pas référence. En tout cas, c'est une manière de communiquer entre nous qui est assez directe.
Histoire de comprendre un petit peu comment vos deux univers fonctionnent entre eux, parce que c'est vrai que sur le papier, le chant baroque d'un côté, le son techno-hardcore de l'autre, a priori ça se marie pas. Musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre ?
Je peux faire une petite parenthèse. Moi, je considère absolument pas que je fais du chant baroque. Je ne fais pas de chant classique. Je suis une chanteuse qui est m'inspirée et qui utilise différentes techniques. Donc, il peut y avoir des techniques empruntées au lyrique, mais également à la chanson tout à fait actuelle, etc. Donc, quand on me dit chanteuse baroque, ça me crispe un petit peu parce que je me sens pas du tout légitime. Et j'ai énormément de respect pour les chanteuses d'opéra et je ne leur arrive pas. Enfin, j'ai pas envie de dire que je me compare à elles directement. Voilà, donc ça, c'est ma petite intervention.
Précision importante, mais en tout cas, même de base, la techno avec des voix, c'est une pente dangereuse. Enfin, de base, enfin, sur le papier, selon nous, mais même. Enfin, c'était mon avis et ça allait toujours un peu, et c'était aussi ça qui était rigolo comme challenge. Je sais plus c'était quoi la question.
Musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre ?
Franchement, je pense que c'est un truc qui se passe pas exactement avec des genres musicaux, mais plus des atmosphères, des mélodies, des thématiques, la manière dont Mathilde aussi elle écrit, enfin pour ma part voilà.
Ouais, je crois qu'en fait on a trouvé un langage commun. Maintenant c'est vrai que c'est difficile de dire chez Paul j'aime bien, comme on a trouvé un langage qui est peut-être celui de la mélodie et de la rythmique. Moi, dans mon écriture, la rythmique, elle est importante. En tout cas, j'ai une écriture qui va être rythmique. Voilà, donc il y a des choses qui se répondent. C'est plus un process que une forme, je crois.
On n'a jamais fait de cahier des charges pour se dire ce qu'on allait faire, quoi. Enfin, je pense qu'on avait tous les deux une idée assez précise et suffisamment vague en même temps, mais enfin, c'était à la fois une aventure et avec plein de territoires à explorer, mais je pense qu'on savait tous les deux si un truc était ascendant vierge ou si on driftait. D'ailleurs, c'est arrivé que des prods Mathilde ne prennent pas, ou qu'il y ait des textes ou des interprétations où je dis non, vas-y, là c'est trop autre chose, quoi.
Et Paul, tu disais que il y avait une prise de risque, que c'était dangereux de faire ce que vous avez fait.
Bon, alors, toute proportion gardée, vu que personne ne l'attendait, personne ne nous regardait à la base, donc Après, je parle de moi, comment ça s'est passé. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec un rappeur pendant longtemps. Du coup, j'avais ce rapport du beatmaker avec la personne qui écrit et qui interprète les morceaux. Et ça, ce projet s'est arrêté. j'ai eu ce projet avec Casual Gabbers qui continue, plus côté musique électronique, DJ, et moi ça me manquait d'avoir un alter ego qui écrit et qui chante sur mes chansons, et voilà, ça c'était un truc que moi je cherchais depuis longtemps, donc quand ça s'est présenté et que ça a commencé à bien se passer avec Mathilde, je sais pas, ça a été assez évident, quoi. Je me suis pas dit, oulala, je vais prendre des risques, me mettre en danger, enfin...
Non, je crois que le seul truc qu'on s'est dit, c'est plutôt... en fait, on a commencé avec un remix. Hein, c'est moi qui ai demandé à Paul de faire un remix sur mon disque. Et puis très vite, on s'est dit, ah, mais on va continuer à bosser ensemble. On cherchait un peu des manières de soit moi de faire des voix, soit Paul de me faire des instrus pour mon projet. Et puis en fait, très vite, je lui ai dit, mais vas-y, on fait un groupe. En fait, on va s'amuser, on va un peu se libérer chacun de nos projets pendant... Donc voilà, pendant un petit moment, et puis on va voir ce que ça donne. Et en fait, c'est devenu aujourd'hui, voilà, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais au départ, c'était un truc un peu pour je sais pas, pour s'amuser, pour se détendre. ce qui est super, en fait.
Et c'est de la musique qui nous donne également beaucoup de plaisir, musique qui se danse notamment en discothéca. On va donc écouter ce morceau d'Ascendant Vierge et on se retrouve avec eux en interview tout de suite après. D'écouter Discothéca, morceau de nos invités, Ascendant Vierge, Mathilde et Paul. Et je crois que tu avais une question, Gabin, concernant leur vidéoclip.
Oui, votre vidéoclip de Discothéca, j'ai l'impression. Je me suis demandé, est-ce que c'est. On va peut-être le décrire à la radio avant, c'est peut-être important. Il y a des sortes de. Il y a des personnes qui sont des ombres, on voit des visages. Est-ce que c'est les vôtres d'ailleurs? C'est que vos visages sur lesquels sont projetées différentes images? Vous avez différents.
des visages sur lesquels sont projetés d'autres visages un peu déformés. On est entre la statue, la sculpture. Ça change un peu. Ça fait des sortes de statues précolombiennes, bizarres, africaines. Mais à première vue, c'est dans une esthétique très néon. Boîte de nuit, peut-être un peu années 80 aussi, avec des lumières. Très stylisé quand même.
Non mais grave, ça c'était dans la track. C'est pour ça que ça s'appelle discothèque aussi, un terme un peu désuet. Il y avait ce truc déjà néon, années 80, discothèque. Donc c'était tellement évident, je pense.
Et je me suis demandé si c'était ça, l'identité de Ascendant Vierge, avoir des sortes de silhouettes mystérieuses qui peuvent changer de forme à tout instant, qui peuvent être n'importe qui ou n'importe quoi.
On n'a jamais vraiment analysé la chose comme ça. Après, c'est vrai qu'on est assez, assez libre, assez détendu dans notre travail. On se promène pas mal dans les styles musicaux, les références, dans la façon dont Paul compose les morceaux et les arrange. Et puis après, même dans le registre vocal, il y a pas mal de voix, pas mal de personnages, on peut dire. Mais après, je crois qu'on finit toujours par réatterrir un peu dans nos baskets.
Sinon, pour côté musical, ta voix, Mathilde, elle est quasiment inchangée. Tu as juste un petit peu de réverb quelques fois. Pourquoi ce choix-là, alors que maintenant on entend beaucoup de vocodeurs, ce genre de choses que...
Ah oui, oui, oui.
Pourquoi ta voix, elle est intacte?
C'est vrai. Il y a...
Parce qu'elle chante bien.
Merci, Polo. Non, mais parfois ça m'arrive de faire des petites dérives, mais c'est humain. Non, en fait, c'est ce côté-là d'être en direct avec son auditeur, je pense, et puis envers soi-même. Moi, je trouve ça évidemment extrêmement agréable et drôle de chanter avec des autotunes. J'ai déjà essayé, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est pas moi. C'est comme si je portais un masque. Et ça me gêne. Donc en fait, pas dans mes projets musicaux, j'utilise pas ces choses-là. Parce qu'en fait aussi, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, donc il faut aussi un peu se démarquer. Et se démarquer en étant soi-même, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux.
Non, c'est clair. Enfin, du coup, il n'y avait non seulement pas besoin d'utiliser d'autotune et aussi la volonté du coup, d'avoir le plaisir de le faire comme ça, mais je pense que ça va même encore plus loin en termes de prod. Du coup, Lucien Kramp, avec qui on a réalisé pas mal de morceaux, souvent, c'est quelque chose qu'il m'a dit tout de suite. Mathilde, elle fait des prises en one shot, il y a peu de cut, on a peu de back et tout. Et des fois, il accentue ça. Mathilde, elle va livrer 4 pistes de back, on n'en garde qu'une, ou on laisse que le lead. Et il y a une volonté de minimalisme aussi dans la présence de la voix, parce qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça le fasse aussi.
Je vais en revenir à ce mot « discothéca ». De mémoire, les derniers Parisiens qui en avaient parlé en chanson, c'était les Ex-Pop Troupe. Et eux chantaient en italien. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce morceau.
Moi, j'avoue que j'ai découvert le morceau après qu'on ait écrit, qu'on ait produit le morceau qui, au départ, en fait, s'appelait La Discothèque. Et donc, avec Paul, ça nous posait quand même un problème, ce nom, parce qu'on trouvait ça complètement désuet. Et puis effectivement, c'est toujours ce même Lucien Kramp avec qui on était en train de bosser sur des répètes pour le live. Il dit « Non mais attendez, vous pouvez pas laisser ça comme ça craint, c'est complètement ringard. Regardez, on va me rajouter un A et là, tout de suite, tout va s'ouvrir. » Et puis là, on dit « Ah ouais, non mais carrément, c'est beaucoup plus chouette. » Alors ça nous fait toujours un peu bizarre quand on est en Espagne et qu'on chante la discothèque. On a l'impression qu'on se fout un peu de la gueule des Espagnols. Mais en fait, pas du tout. Oui, donc effectivement, il y a ce morceau La Discothèque qui existe, et puis le nôtre, et plein d'autres encore, je suis sûre.
Alors, je faisais allusion avec Ex-Pop Troupe qui, eux, chantent en italien, et c'est vrai que dans l'opéra, en général, on chante soit en allemand, soit en italien. Vous avez envisagé de transposer vos paroles, mais dans ces langues-là, pour pouvoir peut-être vous exporter à l'international ?
Alors pas pour rendre ça, on s'en fout, parce que ça le fait déjà en français, mais parce que c'est drôle, et en plus on a un rapport avec l'Allemagne dans le sens qu'on a sorti nos premiers disques et notre premier EP sur Life Roamers, qui est un label berlinois, et assez vite est née l'idée de faire des versions comme à l'ancienne justement. Françoise Hardy, par exemple, a eu une carrière incroyable en Allemagne parce qu'elle a refait tous ses albums en allemand, quoi. Et Mathilde, elle est hyper forte en imitation d'accent et de personnages. Du coup, ça pourrait grave le faire. On ne l'a pas encore fait, mais il y a eu des chantiers lancés là-dessus et ça pourrait venir très fort. Et je pense que italien-allemand plus qu'anglais, limite.
Ah oui, carrément. Même espagnol, hein. Oui, non, c'est vrai qu'il y avait des chantiers, malheureusement, on n'a pas pu aller au bout, mais pff, en fait, on peut tout à fait le faire encore. Moi, j'ai un challenge dans ma vie, c'est d'être capable de chanter une chanson dans toutes les langues. Donc, le dernier disque que j'ai sorti en solo, j'ai traduit le single en russe, que j'ai interprété en russe, et ouais, c'est complètement pas exclu. C'est bien de remettre ça sur la table.
On va se faire une nouvelle coupure musicale avec Où sont nos rêves. Il s'appelle Ascendant Vierge et on se retrouve avec eux tout de suite après.
Où sont nos rêves ?
En la discothèque.
Sont nos rêves ? Telle est la question posée par nos invités Ascendant Vierge que là nous rencontrons dans le cadre du Printemps de Bourges. On va passer des rêves aux rêves, car avec votre esthétique musicale hard music, je vous imagine volontiers proche de Manu le Malin, musicien qu'on a pu redécouvrir il y a peu de temps sur les réseaux sociaux, interviewé dans les années 90 par Jean-Luc Delarue. Le journaliste faisait une comparaison entre le DJ et le chaman. Manu le Malin, lui, me semblait rejeter ce côté ésotérique de la métaphore, alors que vous, bah, ascendant vierge, vous sautez à pieds joints dedans. En dehors des effets de transe que peut provoquer votre musique sur un dance floor, quel serait votre rapport à la spiritualité ?
Alors déjà, gros big up à Manu le Malin. Grosse légende. Non mais en plus on le connaît. Ouais. Voilà. Bisous Manu. Et je vois ce qu'il veut dire. Je pense qu'il voyait ça aussi du côté starification du DJ, qui est tout l'inverse de l'esprit free party. Où les gens sont devant le son et pas devant le DJ. Enfin,
je pense qu'à l'époque, en fait, on reprochait beaucoup le rapprochement techno et drogue. En fait, je crois que c'était
le reportage
est très très orienté.
Ouais, ils étaient bien placés en même temps les deux. j'ai pas eu d'éducation religieuse. J'ai grandi et j'ai fait mon adolescence avec des gens avec qui j'ai beaucoup parlé spiritualité et religion, et c'est toujours un truc qui m'a grave branché d'écouter un peu. Moi je vois ça comme de la méga sagesse ancestrale, mais de toutes sortes. J'aime trop les histoires ce qu'on se raconte autour de... Du coup c'est un domaine qui m'intéresse et me touche, et je pense que j'ai un côté spirituel sans savoir vraiment mettre un nom dessus, quoi.
Là, en vous découvrant, en discutant avec vous, votre duo me semble avoir pas mal de similitudes avec le groupe hollandais Skip and Die. Alors même si vous n'évoluez pas exactement dans le même registre musical, vous avez en commun les effets de trance qui apportent une dimension spirituelle à votre univers. Vous avez ce goût pour le métissage, mais également ce goût pour l'esthétique visuelle forte. Selon vous, est-ce que vous pourriez être influencé par Skip and Die ?
Un petit peu, j'ai passé du temps à Amsterdam justement vers les années 2010. Du coup, j'ai pu vous voir un peu. Mais eux-mêmes étaient grave influencés par MIA. Enfin, moi, je vois ça dans un truc plus global de cette époque. Mais Skip and Die, parmi tant d'autres. Mais je vois ce que tu veux dire. Chez toi, ça te parle, tu vois, ou pas ? Non, ok.
Stéphane l'a rappelé, il y a un côté esthétique assez fort chez Ascendant Vierge. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de style défini. Vous oscillez dans pas mal de styles différents entre le clip avec Dr. Peacock, tous les clips que vous avez faits et vos visuels. Est-ce que vous cherchez visuellement dans la charte graphique, ou vous essayez de faire à peu près tout ?
Je pense que tout le monde se cherche toute sa vie. Du coup, oui, et en même temps, non. Je pense qu'on a... Surtout, je pense que c'est plus un truc de liberté. Et puis après, c'est peut-être au début, il y a des choses qui se sont installées et qui aussi évoluent avec la musique du groupe, avec nous, notre rapport qu'on a à ça. Et pour Dr. Peacock, c'est vraiment une collab où on a essayé justement d'aller vers son univers aussi et de réussir à avoir quelque chose qui nous corresponde aux deux, quoi.
Oui, pour revenir au choix esthétique, etc., de ce qu'on se cherche. Je crois moi, la manière dont j'apprends de la musique, c'est plus une manière d'apprendre l'art de manière plus globale. Donc souvent, j'ai un peu une vision, en tout cas, des envies autour d'un morceau, d'un disque. C'est assez important de me projeter déjà à l'image pour que je puisse incarner le morceau. Enfin, il se passe quelque chose de... Au-delà, donc c'est vrai que la musique, c'est généralement ce qui drive, c'est ce qu'on fait en premier, ce qui sort en premier. Et puis quand on a la possibilité de faire un clip sur un morceau, ça va de soi. Donc souvent, enfin, il y a pas vraiment d'hésitation ni de longue recherche. C'est on sait avec qui on va travailler en termes de réalisation. Souvent, on dit voilà, on donne un peu les préceptes du projet, et puis on avance. On avance comme ça. Donc c'est vrai que par exemple pour Faire et Refaire, Influenceur, on a travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Kevin El Amrani. Puis par exemple pour Discothéca, avec un autre réalisateur qui s'appelle Emeric Bergada du Cadet. En fait, on va chercher un peu chez chacun leur spécialité, ce qu'on cherche chez eux, ce qu'on a envie de pousser. Voilà.
Ouais, et puis je pense que c'est un truc avec le temps aussi de pas s'enfermer dans un truc qu'on aurait fait, qui aurait marché, genre le délire cyberpunk ou je sais pas quoi, genre ça donne envie justement d'aller vers un truc qui a rien à voir, enfin voilà, je pense que on rebondit aussi de chanson en chanson, quoi.
Nous avions 20 minutes. C'est très vite passé en votre compagnie. En tout cas, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Bah, c'est un grand plaisir.
Beaucoup.
Et on va se quitter avec Influenceur, qui est un de vos tubes, hein, on va dire. Merci à Ascendant Vierge.
Merci.
À bientôt.
Salut.
Un passif de souffre et douleur, ni de ta faute ni de la leur. Tu voulais être l'un des leurs. Copieur, copieur. Dealer, dealer. Killer, killer. Montre-leur, montre-leur que t'es brisé de champion vainqueur. Baratineur, bluffeur, trimeur. Tu n'es juste qu'un pipoteur. Mytho, lâcheur, tricheur, stalker. Petit joueur, petit joueur. Copieur, copieur.
À Shanghai, à Hong Kong, mais rien de bien extraordinaire, on rêvassait.